Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Quelle est la procédure à suivre pour acheter une parcelle? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien avec Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. Maître Eric, bonjour.
Bonjour à tous nos auditeurs.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Et le second sujet de cette émission, c'est comment limiter les impacts des inondations dans les zones touchées. Eric Kasongo, directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable, sera notre invité, ainsi que le professeur Eustache Kidikwadi, docteur en sciences de l'environnement. Merci de rester fidèle au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien, pour participer à cette émission, mesdames et messieurs. Appelez-nous au 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Et puis, vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Patrick Kiasongwa à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Il est assisté par Marc Chata. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, encore une fois, ravi de vous retrouver aujourd'hui, fidèles auditeurs, dans ce magazine Okapi Service. Vous désirez acheter une parcelle, c'est une bonne chose, mais la prudence s'impose à cause des nombreux cas d'escroquerie et des conflits interminables dans ces secteurs. Vous pouvez tomber sur des faux titres des propriétés. Il peut y avoir contestation sur la parcelle ou une hypothèque. De nombreuses personnes vont acheter des terrains auprès des ayants droit coutumiers. Ils se rendent compte plus tard que le bien en question a été vendu à plusieurs personnes à la fois. Alors, quelle procédure suivre pour acheter une parcelle en bonne et due forme en République démocratique du Congo? Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. Et notre invité, Maître Eric, encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission de la vie au quotidien. Alors, dites-nous pourquoi il est important d'être prudent avant d'acheter. Pourquoi être prudent avant d'acheter une parcelle?
Bonjour, Monsieur Goudi. Bonjour à tous les auditeurs. Il est extrêmement important d'être prudent avant d'acheter une parcelle parce que, en fait, personne dans la vie courante n'aime s'attirer des ennuis, et surtout des ennuis judiciaires. Lorsqu'on achète une parcelle et que par la suite ça vous attire des ennuis, c'est un désagrément, c'est une perte de temps, une perte de moyens financiers, et on risque même de perdre son argent et de perdre beaucoup de temps dans des procès, dans les collimateurs de la justice. Voilà, en gros, c'est pour s'attirer, pour éviter de s'attirer des ennuis. Voilà.
Bien. Alors, pourquoi il y a tant d'ennuis dans ces secteurs, dans tout ce qui concerne l'achat des parcelles? Il y a toujours des problèmes, beaucoup de procès devant les cours des tribunaux, etc.
Oui, il y a effectivement un bon nombre de procès devant les cours des tribunaux, devant la justice, en bref. Parce que parfois ceux qui achètent mal ne savent pas quelles sont les dispositions à prendre, et ceux qui vendent parfois aussi n'ont pas la vraie qualité requise pour vendre. Ça peut créer des problèmes à l'interne, des querelles intestines dans le camp de ceux qui vendent, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'une seule personne qui vend. Ça peut créer des contestations. Et lorsque ça crée toutes ces contestations-là, généralement, ça tourne au désavantage de l'acheteur qui continue à perdre des moyens financiers au-delà de ceux qu'il a déjà engagés pour acquérir la parcelle.
Bien, par exemple, pour ceux-là qui vont acheter ceux qui vont acheter chez les ayants droit coutumiers, est-ce que c'est un achat valable ou pas, parce que Il n'y a pas d'élotissement du côté gouvernement. Bon, les gens vont plus chez les ayants droit coutumiers. Est-ce que ces transactions-là sont valables?
Oui. Il est vrai que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Il est aussi vrai que toutes les terres en République démocratique du Congo sont domaniales, c'est-à-dire appartiennent à l'État. Mais il y a un malaise. La loi elle-même prévoit que le régime juridique de ces terres aurait dû être réglé par une ordonnance du président de la République à l'époque, laquelle ordonnance jusqu'à ce jour n'a jamais été prise, été habitée, ce qui fait que il y a quasiment un vide, de ce côté-là. Mais les transactions avec les endroits coutumiers restent valables tant que ils soient les vrais endroits coutumiers qui aient des dépit sur la terre dont ils font mal, comme communauté locale.
Bien. Alors, dites-nous, si on achète auprès des endroits coutumiers, après cela, quelle procédure suivre pour sécuriser son bien, le bien acheté ou la parcelle?
Voilà. Commençons par dire que...
Maître, je pense qu'on a quelques soucis au niveau de la liaison.
Les ayants droit coutumiers...
On a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Je pense qu'on va changer des lignes. On va le prendre sur une autre ligne. Entre temps, vous avez des questions et préoccupations par rapport aux procédures à suivre pour acheter une parcelle en bonne et due forme. Eh bien, appelez-nous au 099-706-99-41. 099-706-99-41. Voilà, c'est le numéro pour participer à cette émission de La Vie au quotidien. Appelez-nous et nous allons vous rappeler pour poser vos questions ou témoigner au cours de cette émission par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Vous avez des témoignages, vous avez eu des situations compliqué lorsque vous êtes allé peut-être acheter une parcelle. Eh bien, vous pouvez témoigner dans cette émission de La Vie au quotidien. On va accueillir Maître Ouli Mwengu de Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Et quelle est votre préoccupation?
Si vous pouvez un peu me rappeler le sujet.
Allô? Qu'est-ce que vous avez à nous
Allô,
dire par
si
rapport
à... Allô, vous pouvez rappeler le sujet.
Voilà, nous parlons de la procédure à suivre pour acheter une parcelle. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Ah, ok, merci beaucoup. La procédure est prévue par la loi. Et on ne peut pas beaucoup plus inventer ce que la loi n'a pas prévu. Et quand je parle de la loi, je fais allusion beaucoup plus à la loi foncière de 1973 qui donne presque... tous les éléments importants pour qu'une parcelle, une construction soit achetée par un individu. Au fait, beaucoup plus, il faut d'abord faire une distinction entre ce qu'on appelle les concessions ordinaires et concessions perpétuelles. Parce qu'en principe, selon la loi, la terre, donc le sol, le sous-sol appartiennent à l'État. C'est l'État qui est le propriétaire du sol et du sous-sol. Nous tous, qui désire avoir un terrain, une concession, nous sommes que les concessionnaires de l'État. Alors, ça dépend maintenant. Pour que quelqu'un puisse avoir une concession, il y a une procédure à suivre. Notamment d'abord, il faut dresser une demande. Cette demande sera adressée au conservateur des titres immobiliers. Et après avoir analysé, on doit maintenant vous accorder une concession moyennant un prix quelconque. Et là, maintenant, il y aura des exigences que l'État va vous imposer. Notamment, il faut mettre le terrain en valeur conformément à la demande. Et si le terrain a été, la concession a été demandée pour habitation, pour ériger une maison commerciale, pour faire les champs, tout ça. Alors, dès que maintenant vous avez cette concession-là, vous avez l'autorisation, et directement, vous allez maintenant entamer les procédures pour avoir les certificats d'enregistrement. C'est là que vous devenez maintenant propriétaire, étant donné que le certificat d'enregistrement c'est le titre qui prouve les droits de propriété immobilière sur le sol et sur le sous-sol. Alors, dès que maintenant vous avez le certificat d'enregistrement et vous êtes directement concessionnaire ou ou propriétaire, vous pouvez aussi un jour souhaiter vendre à quelqu'un d'autre cette concession-là. Alors, quand vous avez le titre, vous pouvez maintenant le vendre à quelqu'un d'autre qui veut l'acheter. Et là, maintenant, le nouveau acquéreur sera aussi obligé d'aller à travers le contrat de vente que vous aviez passé avec lui, ou même par donation, ou même par testament, hein, ou même par, il y a plusieurs façons, même par testament, bien sûr, il peut maintenant aller aussi devant les concessionnaires de titres immobiliers pour faire la mutation. La mutation, c'est-à-dire changer les noms qui étaient sur le certificat d'enregistrement du premier acquéreur et établir les noms pour le nouveau acquéreur. C'est là que celui-là aussi devient propriétaire et il peut vendre, il peut aussi faire tout. Et lorsqu'il y a un problème même devant la justice, il peut facilement prouver que ça c'est ma propriété, ça ne peut pas avoir beaucoup de difficultés. Alors quand on a des difficultés actuellement en ville, par-ci par-là avec les problèmes fonciers, c'est parce que les gens n'ont pas de titre. Vous allez voir, quelqu'un n'a pas un titre pour prouver réellement si cette concession-là appartient. C'est ça le problème que nous avons. Même au tribunal, vous allez voir, il y a des problèmes sérieux. Quelqu'un va dire non, ça c'est ma concession, ça c'est mon terrain, vous avez, je l'avais acheté, je l'avais acheté, quel qui m'avait donné, mais sans aucun soubassement. C'est ça le problème de ces journalistes.
Merci beaucoup, Maître Willy Mwengu de Bukavu. Excellente journée. On va donner la parole à Maître Eric. Vous êtes là. Je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir est-ce que on peut acheter un terrain auprès d'un ayant droit coutumier. Est-ce que cet achat est valable? Et puis après, comment, quelle est la procédure à suivre pour sécuriser le bien acheté?
Oui, merci bien. J'étais en train de dire tout à l'heure que on peut bel et bien acheter un terrain auprès d'un ayant droit coutumier, mais il y a lieu de dire de prime abord que les communautés locales, donc les ayants droit coutumiers, disposent d'un droit collectif sur les terres de leur communauté. Et donc, c'est là où se pose parfois le premier malaise lorsqu'un seul individu de cette communauté vend un terrain de la communauté sans associer les autres et sans avoir mandat de les représenter tous à cet acte de vente-là. Là, les soucis peuvent déjà commencer parce que les autres membres de la communauté peuvent contester le droit d'agir tout seul dans le chef de la personne qui a vendu. Mais lorsque on a pris des dispositions pour que la vente faite par la communauté locale ou coutumière puisse être entourée de toutes ces garanties-là, notamment la qualité de la personne qui vend, et si elle est habilitée à représenter sa communauté, et là, après avoir acheté, on recourt au service de l'État pour obtenir les titres. Parce que jusqu'ici, comme nous l'avons dit en amont, toutes les terres sont devenues domaniales, certes, mais les communautés locales disposent d'un droit d'occupation et d'un droit sur les terres qui sont les leurs, pour autant que l'ordonnance présidentielle qui devait définir les régimes juridiques spécifiques de ces terres tarde à venir depuis l'avènement de la loi foncière ou dite foncière selon les écoles. Donc, après avoir acheté auprès des ayants droit coutumiers, il faut voir les services fonciers pour harmoniser la procédure. Là, on commence généralement par la légalisation de l'acte de vente. Il s'en suit s'il s'agit d'une parcelle à vocation résidentielle, il va s'en suivre un mesurage, un bornage et toute une procédure jusqu'à arriver à avoir un titre, notamment le contrat de location avec la République.
Bien. Vous avez bien confirmé que cet achat est valable. Alors après l'acte de vente, il faut lorsqu'on obtient l'acte de vente, il faut légaliser, c'est ça? Il faut aller, quel est le service, où faut-il se rendre exactement pour légaliser cet acte?
L'autorité habilitée pour légaliser un acte, c'est le notaire. À défaut du notaire, le conservateur des titres immobiliers a aussi qualité de notaire faisant fonction lorsqu'il agit en matière foncière. Et dans les endroits où il n'y a pas de notaire, c'est vrai qu'actuellement la profession de notaire a été libéralisée. Sous peu nous aurons des notaires libéraux. Mais dans la configuration initiale, lorsqu'il n'y a pas de notaire dans une dans un ressort, lorsqu'il n'y a pas de conservateur des titres immobiliers qui peut le faire, c'est les ministères publics, donc un magistrat du parquet, les procureurs, chefs de parquet, qui fait aussi fonction de notaire. Mmh. Et à défaut du ministère public, c'est un agent de l'administration choisi à cet effet, désigné à cet effet par le gouverneur des provinces, donc un administrateur des territoires, un chef de secteur, selon qu'on se trouve dans un endroit ou dans un autre. Mais il faut suivre scrupuleusement cette préséance-là. Cette préséance-là, voudrais-je dire. Donc c'est à défaut d'eux qu'on peut recourir aux autres notaires faisant fonction.
Bien, après avoir notarié les documents, quelle est l'étape suivante? Faut-il maintenant rechercher le certificat d'enregistrement?
Bon, pas directement le certificat d'enregistrement, parce que le certificat d'enregistrement consacre un droit de propriété lorsque l'espace acheté est mis en valeur. Donc, l'étape directement suivante, c'est la demande des terres auprès des services fonciers, notamment au cadastre, division des titres immobiliers. Il y a un formulaire de demande des terres que l'on remplit. Lorsqu'on les remplit, on les signe, il s'ensuit une procédure administrative, ouverture du dossier, des centres de services techniques pour mesurage, bornage et le soubassement. Devons nous rappeler, demeure l'acte de vente initial conclu entre les vendeurs et l'acheteur, c'est ça l'acte qui constitue le soubassement, avec lequel on voit le service foncier pour que ceux-là, justement, le service foncier ouvre le dossier à leur niveau, moyennant une demande des terres, fasse la procédure pour déboucher dans un premier temps à un contrat de location avec la République, lequel est préparatoire au certificat d'enregistrement, parce qu'après le contrat de location, lorsque la mise en valeur devient suffisante, il y aura un constat qui devra être fait par les services attitrés, qui viendront voir que la parcelle est suffisamment mise en valeur, vous y avez construit, et c'est maintenant là qu'on va délivrer le certificat d'enregistrement qui inclura la configuration de l'immeuble que vous aurez incorporé sur cette parcelle jadis inculte ou vierge que vous aviez acquise.
Oui, quand vous parlez de la mise en valeur suffisante, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
S'il s'agit d'une parcelle résidentielle, il faut y construire. Il faut y construire et finir une construction. Finir une construction selon les normes urbanistiques par rapport à l'endroit où on se trouve. Hein. On ne va pas demander une mise en valeur autant qu'on se trouve à l'intérieur qu'en ville, par exemple. Donc, lorsque vous avez acquis une parcelle à vocation résidentielle, il faut y construire une résidence, il faut y construire une maison et que lorsque vous la terminez, l'on vient constater que la maison est effectivement bâtie et finie. Et là, on vous délivre le certificat d'enregistrement qui indique aussi bien la superficie de la parcelle que vous aviez acquise que celle de la maison que vous y aviez construite.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de la procédure à suivre pour acheter une parcelle en bonne et due forme. Roger Marcel, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, bonjour à notre invité, bonjour à tous les amis fidèles de la radio de la paix.
Quelle est votre question?
Ouais, monsieur Jeudi, je dois beaucoup demander à notre invité, parce que la plupart des cas que nous constatons sont des cas qui viennent toujours des parcelles laissées par de famille ou bien des parcelles familiales, où vous allez voir une personne qui détient vraiment de documents vraiment qui sont prouvés. Lorsque vous venez vous acheter votre parcelle, à un certain moment, après quelques années, vous allez voir la famille qui va encore décider d'aller au parquet, avoir des procès pour eux. Après quelques temps, vous allez voir la personne qui perd un peu, qui perd cette parcelle. Je ne sais pas, il faut toujours aller demander à la famille ou bien il faut toujours avoir un peu des informations pour acheter la parcelle ou bien quoi. Ou bien vous pouvez être assisté quand vous cherchez un peu d'acheter votre parcelle, d'être assisté par un maître avocat, parce que la plupart de ces cas-là, ça se passe toujours dans des parcelles vraiment familiales. Notre invité a encore dit que le sol et le sous-sol appartiennent vraiment à l'État. Mais ce que nous constatons dans notre pays, nous regardons, même lorsque l'État lui-même cherche un peu à avoir un peu un morceau de terre, l'État toujours achète toujours. À ce niveau-là, on se demande si l'État quand même que les sous-sols, la terre et les sous-sols appartiennent à l'État, l'État quand même ne pouvait pas acheter auprès de personnes habilitées. C'est ça mes préoccupations. Monsieur Jeudi, bonne journée.
Bien, merci. François Ilunga, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jeudi. C'est monsieur François Ilunga de la Martine depuis la ville de Kinshasa.
Quelle est votre question?
Bonjour tout le monde.
Quelle est votre question, François?
Merci beaucoup, monsieur Jeudi. J'avais la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique tellement pertinente parce que ça fait partie du social. Ma question est la suivante, monsieur Jeudi. Est-ce que vous m'écoutez, pardon?
Oui, allez-y.
Pardon?
Oui, allô? Allez-y, on vous écoute.
Allô, monsieur Jeudi?
Oui, on vous écoute, François, allez-y.
Allô, allô?
Je pense qu'il a...
Allô?
Il y a un souci avec la ligne. Mais nous, on vous écoute très bien, François. Dommage. Maître Eric, vous avez suivi la préoccupation de Roger Marcel, qui dit souvent c'est souvent le problème des parcelles qui appartiennent à des parcelles familiales qui posent problème. Vous pouvez acheter aujourd'hui, après il y a des problèmes qui surgissent, des conflits interminables, etc. Alors il veut savoir quelles précautions prendre pour ces genres de parcelles.
Oui, merci. L'intervention de Roger Marcel est très pertinente. Lorsque nous parlons des parcelles familiales, il s'agit donc de biens qui sont des biens individus, des biens collectifs, un bien qui appartient à plusieurs personnes. Et donc, personne de cette multitude ne peut s'hasarder à vendre personnellement un tel bien sans avoir mandat de représenter les autres copropriétaires et sans avoir mandat de leur part d'aliéner, c'est-à-dire de vendre ces biens. Parce que la loi elle-même dispose que la vente d'une chose appartenant à autrui est nulle. Donc, lorsque les personnes sont copropriétaires d'une parcelle familiale, que l'une de ces personnes copropriétaires vend, il aura vendu pratiquement sa part, sans vendre la part des autres. Et donc, les autres copropriétaires peuvent se prévaloir de la nullité de la vente à venir entre un de leurs et l'acheteur. La vente d'un bien appartenant à autrui étant nulle. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit d'acheter un bien familial, il faut s'assurer que tous les copropriétaires marquent leur consentement. Si c'est un représentant qui vend, il doit avoir un mandat, une procuration ou un PV de conseil des familles à travers lequel doit ressortir la volonté de tous les copropriétaires de pouvoir vendre un tel bien.
Mais aujourd'hui, il est facile de produire un faux PV de conseil familial. Et la personne peut se dire que c'est elle a les droits de vendre parce que c'est lui le liquidateur.
Justement, c'est facile, mais c'est au risque et péril maintenant de celui qui vend, parce que lorsqu'il confectionne un PV de conseil des familles qui n'est pas vrai, là il commet en outre une infraction de faux en écriture et usage de faux, et donc il s'expose davantage à des poursuites pénales. Mais lorsque ce PV aura aussi été légalisé par les autorités compétentes, le notaire a authentifié ce PV-là, ça réconforte un peu, tant soit peu, la position de l'acquéreur, de l'acheteur, parce qu'au moins il aura pris toutes les dispositions pour exiger les documents qu'il faut au vendeur. Et donc lui aura donc été un acquéreur de bonne foi. Il peut réussir à mieux prouver sa bonne foi en démontrant que j'étais en face d'un PV de conseil des familles. Faux, c'est vrai, mais je ne peux pas me méprendre que c'était un faux, parce que je l'ai vu en forme authentique. Là, ça limite tant soit peu les dégâts du côté de l'acheteur qui peut, en cas de procès, espérer ne pas tout perdre, espérer renverser un peu la vapeur pour récupérer, rentrer dans ce droit. Mais au-delà du caractère faux que peut revêtir un procès de conseil des familles, il faut prendre des précautions au-delà de la simple présentation du PV des conseils des familles, parce que le PV des conseils des familles identifie certaines personnes qui sont signataires. C'est là où j'ai aimé l'intervention de Roger Marcel qui a dit qu'il est mieux de s'entourer des services d'un avocat conseil, parce que l'avocat conseil a un certain flair, il a un certain réflexe qui lui permettra de scruter tous ces documents-là, de voir quelles sont les imperfections qui peuvent y figurer, de les dénicher et de vous conseiller utilement, écoutez, n'achetez pas parce que vous risquez d'acheter un problème. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le projet de loi sur le barreau qui a été débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc il ne restait plus que la promulgation par le chef de l'État. C'est là où nous en appelons à son implication pour que ces fameux projets de loi puissent quand même aussi être finalement une loi par la promulgation. Ce projet prévoyait justement une obligation dans certaines matières comme celle-là de l'assistance d'un avocat. C'est en fait pour désengorger un peu le cours des tribunaux parce que l'avocat peut en amont user de ses réflexes des juristes pour vous épargner d'une suite de procédures judiciaires, des procès de qu'on peut qualifier même de calamités. Et si on sait se doter des services d'un conseil, il peut mieux aider la partie qui voudrait acheter à vérifier l'authenticité d'un PV des conseils des familles, parce que c'est en fait le document par excellence qui peut être produit par un vendeur qui prétend agir au nom de copropriétaires. Donc c'est un peu ça la subtilité. Les PV peuvent être faux, c'est vrai, mais les juristes ont un certain flair, un certain réflexe.
Ils peuvent facilement détecter le vrai du faux.
Exactement. Ils peuvent facilement détecter les vrais du faux. Il suffit d'y être concentré et d'user de certaines techniques pour pouvoir dénicher quand même ces faux-là. Et un avocat conseil, puisque c'est en amont, il peut aussi faire certaines enquêtes personnel pour essayer de confirmer que le PV produit est un vrai ou est un faux.
Mais il peut aussi arriver que l'acheteur et son avocat conseil soient roulés dans la farine.
C'est aussi possible. Hein. Les avocats que nous sommes, nous faisons des œuvres humaines qui sont perfectibles. Il est possible que l'avocat n'ait pas vu une tare, une coquille dont était teinté un acte qui lui était présenté. C'est possible parce que l'avocat, c'est un homme, c'est pas un dieu, c'est un homme avant tout. Mais au moins, son expertise en cette matière-là peut limiter les erreurs, limiter les dégâts. Ça peut limiter les dégâts.
D'accord, on va accueillir Taylor Djuma de Bukavu, ensuite Kaikai Kabasele de Kananga. Taylor Djuma, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux procédures d'achat des parcelles?
Ah oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, je suis Taylor Jacob Djuma Kapera, depuis Bukavu au site Kivu.
Je l'ai déjà dit, passez à la question s'il vous plaît.
Oui, par rapport à la thématique, je voudrais d'abord intervenir, parce que c'est une thématique vraiment qui est d'actualité et la plupart des propriétaires des concessions sont en train de vendre, surtout à Bukavu, vendre les parcelles. Vous allez trouver quelqu'un qui vend la parcelle à X, après un certain temps, il va encore la vendre à Y. Alors, pour les acquéreurs, c'est-à-dire la personne qui va acheter la parcelle, je voudrais conseiller aux acquéreurs ceci. Lorsque vous voulez acheter une parcelle, demandez d'abord au propriétaire de la parcelle de vous présenter d'abord les certificats d'enregistrement parce que c'est la preuve par excellence de la propriété immobilière en droit congolais. Les certificats d'enregistrement. Lorsque les propriétaires vous présentent ces certificats d'enregistrement, vous regardez si ce certificat a été établi en bonne et due forme par les conservateurs des titres immobiliers.
Taylor, c'est ce que l'invité vient de dire tout à l'heure. Alors, quelle est votre question rapidement?
Alors, la question est de savoir Je voudrais poser alors la question à cette question à l'invité.
Oui.
Lorsque quelqu'un achète une parcelle, il a été donc, par exemple, on vend une parcelle à quelqu'un, on établit le certificat d'enregistrement, puis le propriétaire la vend encore à une autre personne, il établit encore un autre certificat d'enregistrement. Alors, qu'adviendra-t-il dans ce cas?
Merci beaucoup, Taylor de Bukavu. Justin Kaikai Kabasele de Kananga nous a envoyé un message que je vais lire tout à l'heure. Le temps d'accueillir Justin Kalabia de Bounia. Bonjour. Justin, vous êtes à Bounia. Bonjour. Justin Kalabia, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour aussi à notre invité.
Oui, quelle est votre question?
Oui, en tout cas, je suis content. Hein, quand j'ai lu le sujet le matin, j'étais frustré de nos autorités, monsieur Jody.
Oui,
allô?
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet? Quelle est votre question?
Oui, ma question est celle de savoir, quand les autorités vendent des parcelles deux ou trois fois, oui, est-ce que le ministre de l'urbanisme et habitants, lui, il fait quoi? Parce que c'est concevable qu'un monsieur, chef du quartier ou chef de la commune, parvienne à vendre une parcelle deux ou trois fois, alors que nous avons un service attitré. Maintenant, quelles sont nos autorités catastrophes, monsieur, aujourd'hui? Merci et bonne journée.
Bien, merci Justin Kalabia pour votre préoccupation. Maître Eric, vous avez la parole.
Merci bien, monsieur Joly. Merci aux auditeurs qui nous ont posé ces questions. Bien, on va parler de ventes multiples. Quelqu'un vend une parcelle, on a établi les documents. Finalement, il va la revendre à une autre personne, établit au niveau des documents, et qu'en est-il? En fait, lorsque la première vente est conclue, l'ancien propriétaire n'est plus propriétaire. Et donc, il ne peut plus vendre le même bien à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a plus le droit de propriété sur ce bien déjà vendu. Quand il vend, il y a transfert des propriétés de lui vers l'acheteur. Et le fait de vendre un bien dont on n'est pas propriétaire s'appelle en droit stéléonat. Lorsqu'on a vendu une parcelle, on n'en est plus propriétaire. Quand on la revend à quelqu'un d'autre, ça suppose qu'on a vendu un bien dont on n'est plus propriétaire ou dont on n'est pas propriétaire. Et donc, on commet l'infraction de stéléonat. C'est punissable par la loi, par le code pénal congolais. Et je l'ai dit tout à l'heure que la vente d'un bien appartenant à autrui est nulle. Quand on vend la parcelle au premier moment, on n'en est plus propriétaire. Elle devient propriété de quelqu'un d'autre. Et le propriétaire initial qui la revend aura donc vendu un bien appartenant à autrui, c'est-à-dire appartenant au premier acheteur. Parce qu'il y a eu un contrat translatif de droits de propriété sur cette parcelle. Et donc, cette deuxième vente est nulle et a vocation à être déclarée nulle par les instances judiciaires. Donc c'est la première vente qui est cristallisée, qui sera prise en compte. Voilà. Et notre second intervenant parle de vente des terrains par les autorités des proximités, chefs des quartiers, bourgmestres, communes et tout et tout. Mmh. Bon, là, il s'agit de situer le problème dans plusieurs axes. En fait, pour que les autorités administratives puissent aliéner des terrains, il doit s'agir d'un lotissement créé par l'État. Et lorsque le lotissement est créé par l'État, c'est pas tout le monde qui est habilité à vendre. Ce n'est pas de l'anarchie. On ne consacre pas l'anarchie que quiconque peut vendre. Le lotissement est géré par des services attitrés, notamment les services d'affaires foncières. Et lorsqu'on vend un bien, disons une parcelle créée par le lotissement de l'État, l'argent-là, en principe, ne va pas dans les poches des administratifs. C'est de l'argent qui doit aller dans le compte du trésor public, en principe. Mais le constat, il est tout autre. Malheureusement,
Et c'est comme ça que même lorsqu'on est en face d'une autorité administrative qui vous vend un terrain, il faut être prudent, il faut d'abord savoir si c'est effectivement un lotissement et que l'autorité a la compétence de gérer ces lotissements jusqu'à en vendre une des composantes. Donc il faut toujours être regardant. Voilà pourquoi nous revenons sur le conseil, d'être toujours conseillé par un technicien à la matière.
Ça vous évite des problèmes.
Ça vous évite des problèmes parce que le technicien limitera les dégâts. Là où vous n'avez pas l'œil juridique pour voir les causes des nullités ou les imperfections.
Lui, il peut détecter cela rapidement.
Il peut détecter cela rapidement et il vous épargne des ennuis, il vous épargne des pertes de votre argent. Le comble, c'est que les gens n'ont pas la culture de consulter les avocats lorsqu'ils veulent faire de telles transactions. Ils recourent aux avocats lorsque ça barde et quand il y a déjà procès. Alors que l'avocat peut vous éviter en amont un procès. Et c'est vrai que l'absence...
Maître, on a appris qu'il y a certaines magouilles dans ces secteurs qui sont orchestrées même par les agents de l'État, du ministère des Affaires foncières.
Il y a beaucoup à dire à ces sujets parce que je ne veux pas fustiger ou jeter l'opprobre sur tous ces agents parce qu'il y en a quand même qui sont corrects. Il y en a qui sont corrects, je ne veux pas dire des choses de manière ramassée pour emballer tout le monde, mais il y a lieu de reconnaître qu'il y a beaucoup de malaise dans le chef de nos frères et sœurs qui sont des agents en cette matière-là. Il y a beaucoup de malaise, vraiment beaucoup de malaise. C'est pas tout le monde qui est véreux, c'est vrai, mais il y a un grand travail de moralisation à faire. Et je crois d'ailleurs que c'est seulement l'ignorance de nos populations qui fait que ces comportements prennent de l'ascendant, parce que lorsque les victimes de ces actes auront à recourir toutes les fois aux instances judiciaires pour faire sanctionner ces abus-là, je crois que ça va quand même moraliser les affaires foncières.
Bien, on va accueillir Thomas Debounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bien, dites-nous Thomas, là-bas à Bounia, il y a aussi beaucoup de problèmes concernant la vente et l'achat de parcelles.
Oui, oui, monsieur le journaliste, il y a un sérieux problème, surtout avec les chefs des quartiers et des avenues. Je ne sais pas si quel est le cas chez vous là à Kinshasa, mais aussi à notre invité qui est au Congo central. Monsieur Jody, il y a un problème ici chez nous. Lorsque quelqu'un arrive à acheter sa parcelle, vous voyez, il y a des chefs de quartier qui sont là comme des témoins et des avenues. Et pour cela, les chefs vous imposent le 10%. Lorsque vous achetez une parcelle, il y a le 10% que vous devez donner à ces chefs-là.
Au chef de quartier.
Et l'autorité. Et oui, oui, au chef de quartier et avenue. Je me vais demander à l'invité, est-ce que le 10% là est reconnu aussi dans notre loi? Parce que on est vraiment débordé avec des chefs à tout moment pour qu'ils puissent signer ou mettre la signature sur le document. Ils veulent à ce qu'il y ait le 10% là. Je ne sais pas si ce 10% là existe dans la loi. Deuxième question, lorsque l'invité a parlé ici de l'Estelionat, lorsque un chef arrive à vendre plusieurs parcelles, et même parcelle à plusieurs individus, quelle serait la conséquence logique? À qui appartiendrait la dite parcelle? Parce que imaginez, il y a cinq individus que le chef va y vendre le passé. Si on revient dans la logique, à qui appartiendrait la dite parcelle? Parce que le chef va vendre à cinq personnes la même parcelle. Qui sera le vrai propriétaire de la parcelle? C'est pas ma contribution, monsieur Jody.
Merci, monsieur Thomas. Maître Eric.
Merci, monsieur Jody. Merci à monsieur Thomas pour ces questions très pertinentes et intéressantes. Qui m'ont arraché d'ailleurs un sourire lorsqu'il a parlé des 10%, qui voulait savoir si c'est institué par la loi.
Oui.
Ça va choquer, mais ce n'est écrit nulle part dans un texte juridique quelque part. Et donc, pour ceux qui les payent, c'est de la turpitude simplement, ils les font par ignorance. Et pour ceux qui les exigent, c'est aussi de la cupidité. C'est vrai qu'on peut dire que les usages sont aussi parfois source de droits, la pratique est parfois source de droits, mais en tout cas, puisque M. Thomas a voulu savoir si c'est institué par la loi, dans la loi, dans toute la loi congolaise ou dans toutes les lois congolaises, il n'est pas institué un 10% quelconque pour qu'un chef de quartier ou un chef d'avenue puisse apposer sa signature et son cachet, comme quoi pour valider une vente ou être témoin dans une vente.
Oui. Il n'est écrit nulle part.
Ce sont des pratiques qui se sont installées malheureusement et des pratiques que les gens ont cautionnées. Figurez-vous que tel a donné, tel autre aussi a donné, tel autre aussi a donné 10% et finalement ça devient une pratique qui s'installe. Mmh. Ça devient un usage, voilà. Ça devient un usage.
Mmh. Et si vous ne donnez pas, le chef du quartier ne signe pas les documents.
Il ne signe pas, malheureusement. Et ces usages, voudrais-je dire, qui se sont installés comme tels, ne sont pas des usages à applaudir. Moi, je crois que si le chef de quartier ne signe pas, sa signature comme témoin n'est pas indispensable parce que nulle part aussi dans la loi, on a écrit que il faut que absolument le témoin puisse avoir qualité de chef de quartier ou de chef d'avenue. Nulle part. Le témoin, c'est toute personne majeure qui a participé à l'élaboration d'un acte dans le cas d'espèce d'un acte de vente entre deux personnes et qui a vu la transaction s'est passée, qui est au courant de la manière dont les personnes se sont convenues sur les clauses, c'est celui-là le témoin. Donc la loi n'oblige pas que ça soit un agent de l'État, un administratif. Ce que la loi pourtant oblige, c'est l'authentification ou la légalisation entre guillemets, si je peux le dire ainsi, des signatures auprès du notaire ou de toute autre personne ayant qualité de notaire faisant fonction. Là, c'est ce que la loi dit expressis verbis. Parce que le conservateur à qui vous présenterez un acte de vente, vous devez lui présenter en forme authentique, c'est-à-dire revêtu de toutes ces formules-là qui l'authentifient par les notaires. Et nulle part, on a cité le chef de quartier comme étant une personne pouvant notarier un acte ou devant nécessairement figurer sur un acte comme témoin.
Oui.
Je m'en excuse à ceux qui vont en être choqués, qui bénéficient de ces 10% régulièrement, parce que c'est quand même faramineux lorsqu'on doit bénéficier de 10% de toute vente qui se passe dans une circonscription, dans une juridiction. C'est quand même faramineux aussi. Je crois que ce sont des pratiques à bannir.
Maître Eric, M. Thomas a posé une deuxième question. Une parcelle vendue à plusieurs personnes à plusieurs la fois. Personnes. Alors, oui, qui en est le vrai propriétaire?
Je l'ai dit à M. Roger Marcel. Lorsque la parcelle est vendue pour la première fois, il y a translation des propriétés. Donc, elle n'est plus la propriété du même vendeur. Et donc, elle demeure la propriété de l'acquéreur initial. Encore que même s'il y a superposition des ventes, parce que toutes les autres ventes-là sont nulles, parce que ce sont des ventes conclues entre quelqu'un qui n'a plus la qualité de propriétaire, quelqu'un qui aura donc vendu un bien appartenant à autrui. Et la loi, l'article 276 du Code civil congolais, dit clairement que la vente de la chose d'autrui est nulle. Elle est nulle. Donc toutes les autres ventes-là subséquentes sont nulles, ou à tout le moins sont annulables par la juridiction compétente, et donc c'est la vente initiale qui prévaut. C'est celle-là qui prévaut si elle n'est pas elle-même entachée aussi de certaines nullités relatives à la qualité de la personne qui a vendu, comme nous l'avons dit là. Donc si la personne qui a vendu avait bel et bien qualité de vendre, aussitôt qu'il vend pour la première fois, c'est fini, il est dépossédé, il ne peut plus vendre aux autres personnes, parce que même s'il les vendait, toutes les autres ventes-là sont nulles, au regard de l'absence de propriété dans le chef du vendeur, et qui s'expose d'ailleurs à des peines prévues pour les stéléonats, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans si je ne m'abuse, à 5 ans de certitude pénale si je ne m'abuse. Et de telles pratiques sont à décourager. Moi, j'encourage les victimes de ces actes à saisir les juridictions pénales répressives pour obtenir la condamnation de telles personnes du chef de stéléonats et de veiller à ce que sinon que les peines soient appliquées, mais au moins de veiller à se faire indemniser. Je crois que la peine ayant une... parmi les fonctions de la peine, il y a la fonction dissuasive. Ça va empêcher à toutes les autres personnes qui seraient tentées de faire la même chose, mmh, d'emboîter le pas à ceux qui ont déjà été en amont condamnés pour les mêmes faits.
Maître Eric, un exemple, quelqu'un achète une parcelle dans la périphérie de Kinshasa, voilà, mmh, auprès d'un ayant droit coutumier, bon, elle revient ici à Kin, un mois, deux mois après, vous allez visiter votre terrain, vous trouvez déjà quelqu'un d'autre en train de clôturer. Mmh. Alors, c'est souvent une surprise désagréable. Maintenant, que faire à ce moment-là?
Il faut immédiatement d'abord s'assurer, voir le vendeur pour s'assurer si c'est lui qui a revendu. Au cas où il est aux aveux, là c'est un aveu de culpabilité. Parce qu'il peut, il peut se faire, ces endroits sont souvent dans ce genre d'attitude, hein, quand ils vous vendent et qu'ils constatent que vous mettez du temps à revenir sur terrain, un mois, deux mois, six mois, c'est comme si la loi, ou c'est comme si eux voulaient vous imposer une occupation ou une mise en valeur immédiate après avoir acheté. Alors qu'il faut réunir les moyens, il faut avoir les moyens de sa politique.
Voilà.
Donc un bien ne peut pas se permettre de revendre un bien qu'il a déjà vendu à quelqu'un d'autre parce que simplement l'acheteur est parti il y a un mois sans refaire surface. Donc, puisqu'on dit que mieux vaut un arrangement amiable mauvais plutôt qu'un bon procès, voilà pourquoi j'ai dit que je pense que il faille revoir les vendeurs pour chercher à s'enquérir de la situation. S'il reconnaît avoir revendu, eh ben, je viens de le dire, mieux valoir un arrangement même mauvais plutôt qu'un bon procès, tenter de refaire les choses autrement. Peut-être qu'il peut avoir un autre terrain à substituer. Et là, c'est maintenant à la merci de l'acheteur qui, oui, peut ou n'est pas accepter ce terrain par rapport à l'emplacement.
Oui, mais est-ce qu'on peut faire arrêter l'ayant droit coutumier qui...
Bien sûr, parce qu'il aura ainsi commis l'infraction de stéléonat prévue et punie par le code pénal. Il aura commis l'infraction de stéléonat.
Bien.
D'accord.
Je vais lire rapidement la réaction de Monsieur Alain Tchounza, épidémiologiste depuis Kinshasa. Il nous dit ceci: la plupart des parcelles vendues sont aussi des terrains spoliés de l'État. En réalité, le pouvoir coutumier ne peut pas dominer sur l'autorité établie de l'État. Comment un soi-disant chef coutumier peut se réclamer propriétaire d'une portion des terres en milieu urbain? Et souvent, il reste à savoir que c'est un complot pur et simple avec les autorités établies de l'État. À titre d'exemple, le quartier Laurent-Désiré Kabila, où la RVA se réclame le droit des propriétés, y compris certains coutumiers mal intentionnés. Conséquence, profanation des tombes, démolition des maisons d'habitation, etc. Votre réaction, Maître Eric?
Oui, c'est là où nous avons déploré le malaise résultant de la loi elle-même, qui prévoit que toutes les terres sont devenues domaniales, c'est-à-dire appartiennent à l'État. S'il faut rester dans ce principe, c'est que les autorités coutumières sont dépossédées du droit de leurs terres. Mais cette même loi, poursuivant sa formulation, ajoute que les régimes juridiques de ces terres rurales, coutumières, que sais-je encore, sera réglé par une ordonnance du président de la République, malheureusement, qui n'est toujours pas venue depuis l'avènement de la loi foncière jusqu'à ce jour. C'est là où ça crée un vide juridique, c'est là où ça crée une cacophonie, c'est là où ça crée un malaise. Parce qu'en fait, il y a lieu de faire la nuance, effectivement, sur le droit des communautés locales lorsqu'il s'agit d'un terrain s'ils en milieu urbain en plein Kinshasa, en pleine capitale, et lorsqu'il s'agit des terrains ou des parcelles qui sont à l'intérieur, sur les terres où vivent ces communautés locales. Donc moi, je pense que ces communautés coutumières qui vivent dans les milieux devenus urbains, n'ont pas, la même couverture de la loi par l'absence de cette ordonnance présidentielle-là. Parce que, figurez-vous, à l'intérieur, le malaise est moins profond par rapport à Kinshasa. À Kinshasa, en plein milieu urbain, M. Alain a fait un constat et qui est pertinent. quelqu'un va se dire, je suis ayant droit coutumier, d'intérêt si à l'EMA, d'intérêt si à... Bref, dans un milieu urbain, c'est là où le malaise. Il est temps que l'État réglemente, revienne sur cette question, en prenant cette fameuse ordonnance présidentielle tant attendue, qui viendra clarifier les choses. Parce que pour autant que cela n'a pas été fait, il y a un vide juridique qui laisse croire à ces ayants droit coutumiers qu'ils disposent de droits sur leur terre. Ce qui est du reste logique et juste, s'il faut se situer dans leur camp. Il est d'autant plus logique que toutes les terres étant devenues domaniales, que les pouvoirs publics se disent non, ce sont mes terres, moi l'État, et donc vous n'avez pas, vous, à vous imposer là-dessus. Il y a un auditeur qui a effleuré la question en disant que l'État lui-même parfois négocie avec ses communautés locales pour récupérer les terres, alors que sont ces terres, alors on dit que les sols et sous-sols appartiennent à l'État.
Il y a
un malaise profond dans ce secteur-là. Je crois que il y a lieu de faire un état des lieux par rapport à la loi foncière depuis son avènement jusqu'à ces jours, pour la révisiter en certaines dispositions qui ont montré leurs limites par rapport au cas que nous vivons du jour au lendemain. Et il y a lieu que les pouvoirs publics clarifient la situation des terres des communautés locales. Parce que il y a des communautés locales en milieu rural, il y a des communautés locales en milieu devenu urbain. Et là, le malaise est profond.
Bien, on va terminer, maître, avec la réaction des Kaikai Kabassele et des Kananga. Il dit le sujet est pertinent et nécessite une analyse purement juridique, car les cadres et agents des services publics, ainsi que les chefs du village, sont impliqués dans la vente irrégulière et illégale des parcelles ou concessions dans nos différentes communautés. Que disent d'abord les textes légaux et réglementaires en la matière? Qui fait quoi pour acheter ou vendre une parcelle? Quelles sanctions prévues en cas d'achat ou de vente irrégulière ou illégale? La plupart des ayants droit coutumiers sont souvent exposés à des traitements humains, inhumains et à la mort. Que disent concrètement les lois et règlements de la République? Bien, bon, on n'aura pas assez de temps pour répondre à toutes ces questions. On retient que pour éviter les ennuis, quand vous allez acheter une parcelle, c'est toujours mieux de vous faire accompagner d'un avocat pour ne pas être roulé dans la farine et puis acheter illégalement une parcelle. Merci beaucoup, maître Eric Vouvou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Congo central. Excellente journée et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, merci aux auditeurs pour leurs différentes contributions pertinentes. Bonne journée à chacun de nous tous.